à la fin.
Je remercie comme ça, je vous passe là, et puis je vous remercie. Et à la fin, vous chantez peut-être l'Alma sur ce corps, et vous donnez la bénédiction. L'abbé remercie.
Je me suis dit qu'il faut que l'entrée était gratuite, mais que la sortie est payante.
C'est ça, vous avez dit.
C'est pas vous. Et puis, quand vous avez fini, après, il vous redonne le micro. Enfin, vous entendez tout de suite l'Alma, et puis vous donnez la bénédiction.
Parfait. Monsieur Jody.
Si vous voulez bien regagner vos places, il y a quelques personnes encore dans le vestibule. Ne vous inquiétez pas, la librairie sera à votre disposition après la conférence de M. Nabi Payarani. Vous pourrez procurer les revues, le courrier de Rome, d'ici, le Valais de Christianité. Il y a quelques personnes encore qui doivent être à l'extérieur, tout le monde rentre.
Pour vous, c'est bon, ça va, vous allez. Ça va, vous avez ce qu'il vous faut, vous faire des essais.
Donc nous allons entendre M. Nabi Payarani, supérieur général de la fraternité, qui doit nous donner la dernière conférence intitulée « Garder la tradition et la transmettre ». Bien sûr, dans ce titre « Garder la tradition », il y a une reprise du titre, c'est-à-dire des deux premiers mots de ce motu proprio, « Traditionis custodes », c'est-à-dire les gardiens de la tradition. Et là, on transforme cela en un verbe. Comment garder la tradition, comment aussi la transmettre. Pour laisser le temps aux gens de venir, je vais vous faire une petite confidence. Comment est-ce qu'on prépare un congrès? Vous voulez savoir, si vous pouvez être appelé vous-même à organiser un congrès sous peu. Alors, la dernière conférence est toujours donnée par le supérieur général. Il faut lui donner un titre assez large, avec un sujet général, en sachant qu'il va le traiter de façon supérieure. À vous.
Je vais essayer quand même d'être synthétique, de ne pas partir dans tous les sens. Mais il s'agit de faire une synthèse. L'essentiel a été dit, de la conférence qui ont précédé. Ce qui est certain, c'est un moment crucial. Un moment, j'allais dire, à la fois triste, mais aussi logique. On arrive à un point qui était prévisible. Il est vrai que la fraternité Saint Pie X n'est pas directement touchée par ce motu proprio, pour les raisons que vous connaissez. Mais des faits, à cause de cette nouvelle situation qui s'est créée, jamais comme aujourd'hui, la position de la fraternité Saint Pie X s'est présentée comme la seule viable, la seule qui tient la route. Bon, évidemment, je ne suis pas peut-être la personne la plus indiquée pour soutenir cela. Mais il y a des faits qui sont objectifs, qui sont là. Pourquoi cela? Parce qu'encore une fois, les instituts ecclésiadei qui sont touchés directement par ce motu proprio ne sont pas la fraternité Saint Pie X, c'est vrai, mais il faut le dire, ils existent parce que la fraternité Saint Pie X existe. Leur origine, je parle en général ici, est liée d'une manière ou de l'autre à l'histoire de la fraternité. Et elles dépendent d'elles indirectement, du moins. Et aujourd'hui, cette nouvelle situation souligne davantage la portée du rôle de la fraternité et de sa mission. Et aussi, inévitablement, la nécessité de la tradition intégrale. Qu'ont-elle ? La tradition est un tout, parce que la foi est un tout. Et la nécessité, plus que jamais, d'une profession de cette foi qui soit libre. La vraie liberté des enfants de Dieu est celle-ci. C'est la liberté de professer la foi d'abord. Or, j'ouvre une petite parenthèse. On va inévitablement parler des instituts ecclésiadei. Je tiens à préciser que sur un plan personnel, je n'ai rien contre les membres des instituts ecclésiadei, ni les fidèles, ni les personnes. Donc on est complètement en dehors de cette perspective. Sur un plan humain, partout, il y a des gens sympathiques et des gens insupportables. Ça vaut pour l'humanité entière, hein. Ça vaut pour les ecclésiadeis, ça vaut pour le Novus Ordo, ça vaut peut-être pour nous aussi, de quelque manière. Mais on est en dehors de tout ça. Je tiens à faire cette prémisse parce que cela me permet d'être plus libre dans mon exposé. Donc on reste au principe. Mais le problème, vous voyez, le problème, c'est pas que la fraternité Sempidis a attaqué les instituts ecclésiadeis. Au moment actuel, c'est le pape lui-même qui semble être fatigué des instituts ecclésiadeis et plus en général de tous les prêtres qui sont attachés à la messe tridentine. Mais justement, c'est l'occasion pour faire un petit pas en arrière et revenir au commencement de l'Ecclésiadei, à ces fameux textes que j'ai ici sous les mains, du 2 juillet 88. C'est les textes qui contiennent la condamnation de la fraternité, la condamnation de Mgr Lefebvre, et qui tend la main aux instituts ecclésiadeis. Je pense que ça vaut la peine, même si c'est un texte extrêmement connu, de lire quelques passages pour le commenter à la lumière des derniers événements. Tout d'abord, la raison théologique pour laquelle Mgr Lefebvre et la fraternité ont été condamnés. À la racine, je cite, de cet acte schismatique, on trouve une notion incomplète et contradictoire de la tradition. Incomplète parce qu'elle ne tient pas suffisamment compte du caractère vivant de la tradition, qui, comme l'a enseigné clairement le Concile Vatican II, tire son origine des apôtres, se poursuit dans l'Église sous l'assistance de l'Esprit Saint. En effet, la perception des choses, aussi bien que les paroles transmises, s'accroît soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des choses spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent un charisme certain des vérités. On peut tout justifier avec ça, hein. On peut partir dans tous les sens avec cette prémisse. Et surtout, je cite, mais c'est surtout une notion de la tradition qui s'oppose au magistère universel de l'Église, lesquels appartiennent à l'évêque de Rome et au corps des évêques, qui est contradictoire. Personne ne peut rester fidèle à la tradition en rompant les liens ecclésiales avec celui à qui le Christ, en la personne de l'apôtre Pierre, a confié le ministère de l'unité dans son église. Tout le problème est là. Cet acte de Monseigneur Lefebvre de 88 et toute l'histoire de la fraternité est un acte de fidélité à l'Église, est un acte de fidélité au pape, à la hiérarchie, aux âmes, indépendamment de ce qu'ils peuvent dire ou pas dire, penser ou pas penser. Par ces biais-là, avec cette notion de tradition vivante, on arrive à quoi? On ne pouvait pas le prévoir en 88, mais on arrive à quoi? On arrive à Maurice Laetitia. On arrive au culte de la terre. On arrive à la Pachamama. Et à d'autres, buts, si vous voulez, que nous ne connaissons pas encore. Parce que à travers cette notion évolutive de la tradition, cette notion dynamique, vous pouvez arriver à n'importe quel résultat. On est dans une autre dimension. On est coupé des faits. On est coupé de cette tradition qui s'enracine dans les apôtres, dans la révélation, qui est elle-même une source de la révélation. Et après, dans le même texte, la main tendue du souverain pontife de Jean-Paul II à l'époque, aux ecclésiadei, à ceux qui allaient devenir les ecclésiadei. Je désire avant tout lancer un appel à la fois solennel et ému, paternel et fraternel à tous ceux qui jusqu'au présent ont été de diverses manières liés au mouvement issu de Mgr Lefebvre, pour qu'ils réalisent les graves devoirs qui est le leur de rester unis au vicaire du Christ, dans l'unité de l'Église catholique, et de ne pas continuer à soutenir de quelque façon que ce soit ce mouvement. Oui, mais l'unité se fait dans la foi. Nous les douanerons que l'adhésion formelle au schisme constitue une grave offense à Dieu et comporte l'excommunication prévue pour les droits de l'Église. À tous ces fidèles catholiques qui se sentent attachés à certaines formes liturgiques et disciplinaires antérieures de la tradition latine, je désire aussi manifester ma volonté, à laquelle je demande que s'associent les évêques et tous ceux qui ont un ministère pastoral dans l'Église, de leur faciliter la communion ecclésiale grâce à des mesures nécessaires pour garantir le respect de leurs aspirations. Mais vous voyez déjà ici le problème. Comme on a dit, l'unité se fait dans la foi. Et l'unité ne peut pas se faire dans un indulte, un privilège qui vise pour les uns une chose et pour les autres l'opposé. Pour les uns, pour les fidèles, les prêtres qui veulent la messe tridentine, c'est un moyen pour garder de quelque manière la tradition. Pour les autorités romaines, maintenant elles l'avouent ouvertement, c'était un moyen pour le faire arriver progressivement et complètement dans l'Église conciliaire, hein, dans cette façon de penser propre à l'Église d'aujourd'hui. Et tout cela a été établi, promis, à la lumière du protocole signé le 5 mai par le cardinal Ratzinger et Mgr Lefebvre. Ben oui. On va revenir sur la sagesse de Mgr Lefebvre. Ce protocole que Mgr Lefebvre a signé et qui a gardé, disons, pendant quelques heures. Il a passé la nuit en prière. différentes interprétations, il y a toute une littérature sous cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé, qui a convaincu Monseigneur Lefebvre, il a passé la nuit en prière, et il a compris dans la prière et dans la solitude de celui qui doit prendre une décision d'une telle importance vis-à-vis de l'histoire et vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis des âmes, il a compris dans la solitude, en quelques heures, ce que maintenant, je pense, même les ecclésiadeïs peuvent comprendre, après plus de 30 ans. Un mot est important, même si la chose a été mentionnée ce matin, je pense que c'est important de revenir un moment sur ce que j'appelle ici, pour simplifier, l'expérience Benoît XVI, du pape Benoît XVI. Et Summorum Pontificum, qu'il faut bien comprendre à la lumière de l'herméneutique de la continuité, qui est cet axe portant du pontificat de Benoît XVI. On a octroyé à la messe tridentine un droit beaucoup plus large. Cela a permis un certain nombre de prêtres de la découvrir. Et en la célébrant, il faut le reconnaître, beaucoup de prêtres ont commencé à se questionner eux-mêmes, leur sacerdoce, et à questionner les conciles, à questionner la nouvelle messe. C'est justement ce processus qui a fait peur au Vatican. Mais la perspective, comme cela a été souligné ce matin, la perspective de ce motu proprio restait bancal, était fondé sur une erreur, deux formes du même rite, et surtout, je dirais, l'illusion d'améliorer quelque chose dans la crise actuelle, c'est ça, l'erreur de Benoît XVI, la limite, l'illusion des améliorer quelque chose dans la crise actuelle sans mettre en discussion les causes de la crise. Et cela ne pouvait pas marcher. Ça pouvait marcher pour un temps, mais tôt ou tard, cela devait aboutir à ce à quoi a abouti. On ne peut pas corriger des erreurs sans les reconnaître comme telles et sans les rejeter. Ça, c'est capital. L'herméneutique de la continuité à essayer de bypasser, de circuiter ces problèmes. Je pense qu'ici nous avons l'Église a une leçon à tirer pour l'avenir. Combien de fois nous nous posons la question aussi, comment est-ce qu'on pourra corriger le concile? Est-ce qu'il faudra rejeter le concile? Est-ce qu'on pourra l'oublier? Est-ce qu'on pourra sauver tout ce qu'il y a de bon dans le concile? Parce que le concile ne contient pas que des erreurs. Je pense que là, il faut être réaliste. C'est vrai que le concile ne contient pas que des erreurs, mais parce que c'est métaphysiquement impossible. L'erreur est toujours mélangée à la vérité. Mais soyons honnêtes et réalistes. Ce qui a fait le concile, ce qui est la colonne vertébrale du concile, le concile réel, si vous préférez, c'est le concile de la nouvelle messe, c'est le concile de l'écuménisme, c'est le concile de la dignité humaine, c'est le concile de la liberté religieuse. Ce sont ces éléments, ces erreurs qui ont changé l'Église. Les vrais conciles réels qui ont impacté l'Église est celui-là. Tous les restes, je simplifie un petit peu, mais toutes les citations des pères de l'Église, les citations d'autres conciles précédents, sont plutôt un encadrement à ces éléments qui sont les éléments centrales. Alors, il faut être honnête. Ce concile réel, il faut le rejeter. L'Église ne peut pas se régénérer si on ne rejette pas ça. Et on a l'expérience de Benoît XVI. Ça ne peut pas aboutir. Mettre la vérité à côté de l'erreur, mettre les deux messes l'une à côté de l'autre, afin que l'une puisse féconder l'autre. Et la réforme de la réforme dans la continuité, c'est une illusion. L'erreur et la vérité ne peuvent pas marcher ensemble. Alors, on le sait, on connaît ces principes théoriquement, spéculativement. Là, on a une épreuve de laquelle il faudra faire trésor à l'avenir. Mais les ecclésiadeis, ne l'oublions pas, ont été supprimés. Enfin, la commission ecclésiadeis, chargée de les chapeauter, de les protéger, de les guider, a été supprimée il y a déjà 3 ans, exactement 3 ans, donc en janvier 2019. Et je vous cite la lettre du pape communiquant cette décision. En considérant aujourd'hui changer les conditions qui avaient amené les Saint-Père Jean-Paul II à l'institution de la Commission Ecclésiadei, et en constatant que les instituts et les communautés religieuses qui célèbrent habituellement dans la forme extraordinaire ont trouvé aujourd'hui leur propre stabilité des nombres et des vies. En d'autres termes, ont été suffisamment réintégrés. Et c'est pour cela que la commission, censée les protéger, est supprimée. Il y a déjà 3 ans. Vous voyez la logique ? Monseigneur Roche, tout le monde, bien sûr, veut citer Monseigneur Roche parce que jamais une autorité officielle a été si explicite et si claire. Il a déjà été cité ce matin. Permettez-moi encore une citation ou deux du même prélat. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est le préfet de la congrégation pour le culte divin. La fausse interprétation et la promotion de l'usage de ces textes liturgiques traditionnels à la suite des concessions purement limitées accordées par les pontifes antérieurs a été utilisée en vue d'encourager une liturgie qui diverge de la réforme conciliaire et une ecclésiologie qui ne fait pas partie du magistère de l'Église. Il est clair que les principaux commentaires de la nouvelle loi qui gouverne la possibilité d'accorder l'utilisation des textes liturgiques antérieurs par voie de concessions exceptionnelles et non par voie de promotion est constitué par la lettre du pape François aux évêques. Cette lettre extrêmement dure du mois de juillet dernier. Il est également évident que ces concessions exceptionnelles ne doivent être accordées qu'à à ceux qui acceptent la validité et la légitimité de la réforme liturgique du Concile Vatican II et du magistère des souverains pontifes. Tout le contenu de la nouvelle loi est orienté vers les retours et la stabilisation de la liturgie tel qu'est décrété par le Concile Vatican II. Pour que c'est suffisamment clair, je ne pense pas qu'on a besoin d'autres citations. Une petite parenthèse, parce que je me souviens en 2016, ce qui n'est pas préhistoire, il y a quelques années, en 2016, l'évêque chargé par Rome de négocier avec la fraternité Saint-Pie-X avait dit à un moment, je ne vois pas pourquoi il faudrait vous imposer à vous le concile. Finalement, on ne demande pas aux gens qui vont à la paroisse s'ils acceptent le concile. Ce qui est vrai. Pourquoi il faut vous l'imposer à vous? Il était resté sans parole devant pas n'importe qui, l'archevêque qui officiellement est traité avec la fraternité Saint-Pie-X. Là, vous avez des affirmations qui sont assez clair dans un sens contraire, totalement contraire. Quel est le point central de tout ce qui a été dit aujourd'hui, de tout ce qui a été souligné? Quelle est l'intuition, pour résumer, pour aller à l'essentiel, l'intuition principale des Traditionis Custodes? On peut tout résumer à ce principe, la messe tridentine ne peut pas être célébrée comme l'expression de la vraie Église, de la vraie foi, c'est-à-dire, nous pouvons ajouter, elle ne peut pas être célébrée pour ce qu'elle est, c'est qu'elle est en réalité. On peut la octroyer, on peut permettre ces célébrations, à condition qu'elle ne soit pas célébrée pour ce qu'elle est en réalité. Vu le paradoxe, tout le problème est là. On revient à la situation, d'une certaine manière, au status questionis de 88, pour les instituts ecclésiadei. On peut dire que les instituts ecclésiadei se retrouvent aujourd'hui devant ce choix. Les conditions actuelles urgent encore plus qu'avant, c'est pas nouveau tout ça bien sûr, mais encore plus qu'avant urge un choix entre deux options. Il n'y en a pas un troisième. Ou l'on garde la liberté inconditionnelle pour professer la foi intégralement, la foi de toujours, et on prend les moyens proportionnés en laissant à la Providence gérer les conséquences. C'est le choix que la Fraternité Saint-Pie-X a fait déjà à l'époque de Monseigneur Lefebvre. Où on soumet cette possibilité à la volonté d'une autorité qui va dans le sens opposé. Et qui l'est dit, il l'avoue. Quel est le problème, l'impasse? Il est impossible d'aller en avant sans l'union de volonté. Il est impossible. Vous ne pouvez pas mettre ensemble deux entités dont les volontés vont dans deux sens opposés. Tôt ou tard, vous arrivez à la situation, à la crise actuelle. Vous voyez? Alors on donne un privilège, on donne un indulte, on crée une situation très particulière, bancale, et on attend l'espace d'une génération, par exemple, on peut attendre 30 ans, aucun problème. Mais ce qui est donné, comme on a déjà souligné, ce qui est octroyé, pour les uns, a une signification et vise un but particulier. Pour les autres, c'est le but opposé. Pour pas vouloir à la fois les biens des âmes par la tradition Et une nouvelle église sans la tradition, on ne peut pas. Je dirais l'histoire est maîtresse des vies, des prudences. Et les instituts ecclésiadeis sont aujourd'hui devant ces choix. Et ils ont quand même un avantage. C'est le recul que Mgr Lefebvre n'avait pas à l'époque. Après 50 ans, je pense, tous les hommes de bonne volonté ont des éléments supplémentaires pour évaluer ce qui se passe dans l'Église, pour évaluer même à long terme déjà les conséquences des principes qui ont été posés. Et si, je pense, nous ne pouvons pas ne pas consacrer un mot justement à ce choix, à cette décision que Mgr Lefebvre a prise il y a plus de 30 ans, en 88, au moment le plus crucial de l'histoire de la fraternité, n'arrive pas à expliquer humainement, avec l'expérience, la sagesse des vies, la culture, la connaissance des hommes, n'arrive pas à expliquer la sagesse de cette décision qu'il a prise en 88. Ça ne suffit pas. C'est un signe infaillible de sainteté, cette capacité d'être mu par le Saint-Esprit, de voir les choses clairement, alors que beaucoup d'autres interprétations pourraient être encore concevables, possibles, peuvent être prises en considération. Avoir le courage de prendre une telle décision qui allait conditionner pour toujours la fraternité, sa personne et de quelque manière l'Église, la tradition dans l'Église. Avoir pris cette décision seule devant Dieu dans la prière, décision de laquelle on constate, plus de 30 ans après, la pertinence, l'exactitude, la longimirance. On ne peut pas l'expliquer si on ne fait pas recours à ces dons du Saint-Esprit, qui est le don du conseil auquel une âme est docile dans la mesure où elle est sainte, dans la mesure où elle est pure. C'est l'histoire qui nous donne la réponse pleinement. Mais revenons à les ecclésiadeis, aux instituts ecclésiadeis. Après les temps d'une génération, comme on a dit, ils ont certainement un recul plus que suffisant. Ils se trouvent aujourd'hui face à ce choix qui n'est pas entre le summorum pontificum et traditionis custodes. Il faut sortir de cette logique. C'est maintenant été mis en évidence comme la continuité, la continuité des fonds qu'il y a entre ces différentes mesures. Même si matériellement elles sont bien différentes, il y a quand même un fond commun. Le choix n'est pas entre summorum pontificum et traditionis custodes, entre un indulte A ou un indulte B ou un privilège C. Il faut sortir de cette perspective. Le choix est entre la déclaration de 1974, cette déclaration d'adhésion et de fidélité inconditionnelle et libre à la Rome éternelle, ou cette option de concession d'indulte particulier qu'on connaît déjà, mais de laquelle on connaît toutes les conséquences. C'est ici le risque de l'impasse, d'une impasse définitive pour les instituts ecclésiadei. Pour pas s'appuyer sous des droits acquis, il faut s'appuyer sur l'exigence de la foi. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir un droit particulier, un privilège, comme on a dit. Vous pouvez avoir un charisme dans votre congrégation. Mais Rome peut changer les constitutions. Plus, Rome peut supprimer une congrégation. Elle a supprimé les jésuites. Elle a supprimé la fraternité Saint-Pédis. Elle peut supprimer sans problème. Je ne le nomme pas par respect. D'autres congrégations, d'autres instituts, elle peut le faire. Et si on a lutté pendant des décennies, uniquement appuyé sur des privilèges particuliers liés à une congrégation particulière, et tout ça peut être supprimé. Qu'est-ce qu'il y a qui est éternel et qui rend notre combat un combat nous rend invincibles de notre combat? Mais c'est la foi. Verbum Domini manet in aeternum. C'est la foi qui est ce fondement nécessaire au combat actuel, au combat pour la tradition. C'est pas un privilège. Les sons des Ecclésiadei, de côté, pour l'instant, c'est... Même si la chose a été évoquée ce matin, il y a un autre aspect dans la tradition du custodes, dans le motu proprio, qui doit être mis en évidence. C'est justement cette accusation d'utiliser les missels traditionnels de façon instrumentelle. Vous avez utilisé ces missels comme drapeau d'une autre église, d'une autre foi, de celle que vous appelez la vraie foi. C'est l'accusation que le pape François formule. Et comme on a vu, ça c'est pas instrumentel. La messe tridentine, en elle-même, intrinsèquement, elle exprime une autre conception de l'Église, une autre conception de la vie spirituelle, une autre conception du sacerdoce. C'est inévitable. C'est inévitable. Et c'est pour cela que elle a dû être remplacée par une autre messe qui puisse correspondre à une nouvelle conception de l'Église, de la vie spirituelle et du sacerdoce. C'était inévitable. Donc cet usage n'a pas été instrumentel. C'est l'usage normal de la messe qui alimente cette conception propre, catholique, de la vie chrétienne. Mais l'usage instrumentel du missel des Saint-Pissant a été fait par les autorités romaines. On ne joue pas avec le missel. On ne joue pas avec les sacrements. On ne peut pas dire, oui, on vous a donné ces missels pendant 30 ans, 40 ans, mais pour vous faire passer graduellement dans la conception, comment dirais-je, c'est un nom, en anglais on dit des mainstream, vous m'excusez.
Le courant dominant. Le courant dominant.
Le courant dominant. Ça, c'est un usage instrumentel. Et c'est inadmissible. On ne peut pas utiliser la messe de cette manière. J'allais dire, c'est un usage homéopathique, un abus homéopathique. Vous voyez, l'homéopathie, elle ne fonctionne pas toujours, hein, vous savez. Les principes de l'homéopathie, c'est de soigner les mal avec le principe même du mal, pour provoquer dans les systèmes immunitaires une réaction graduelle au mal qu'on veut soigner. Et par exemple, si vous ne dormez pas bien, les docteurs vous donnent un extrait du café. Vous voyez, ça c'est le concept de l'homéopathie. Ils ont fait exactement la même chose avec les micelles des Saint-Pie-V. On ne joue pas avec ça. Je ne puis pas utiliser la messe que je considère un problème pour soigner les problèmes chez les fidèles. C'est véritablement un usage qu'on peut définir strumentel. Nous pouvons déjà conclure. Comment transmettre la tradition? Comment la garder? Comment la transmettre? Quel est le rôle de la fraternité Saint-Pie-X? On peut dire que, qu'on le fait humainement. Nous ne sommes pas mieux que les autres. Humainement, nous ne méritons pas plus que les autres. Mais notre force, qui n'est pas dans nos qualités, notre force est ailleurs. Notre force est ailleurs. Et notre force est dans quelque chose à laquelle nous ne pouvons pas renoncer. Notre force est dans la foi, est dans la tradition. Notre force est dans la messe, mais dans la messe, comme drapeau, comme étendard de cette foi et de cette tradition. L'Église, parce que le mot tout propre du pape François dit quelque chose de vrai, si on fait abstraction de certains contenus. Il est vrai que l'Église a une seule messe. Il est vrai. L'Église a un seul culte. Il est vrai. Mais ce culte unique de l'Église n'est pas la nouvelle messe. Tout le problème est là. Ce culte unique de l'Église est dans la messe de toujours. Pourquoi cela? Mais parce qu'il y a une seule rédemption. Vous voyez comment dans l'histoire ancienne, dans l'Ancien Testament, tout converge vers la croix, vers la rédemption. Toute cette multitude des différents sacrifices que les Juifs offraient, tous, d'une manière ou de l'autre, représentaient, visaient les sacrifices de la croix, qui, dans sa perfection unique, résume tous les autres sacrifices. Et parce que le sacrifice de la croix est parfait, notre Seigneur l'offre une seule fois. Toute la vie de notre Seigneur, elle-même, vise la croix, vise la passion. C'est pour cela que la vie de notre Seigneur a cette unité unique. Si je peux m'exprimer ainsi, la vie de notre Seigneur, elle est construite toute et intégralement autour d'une seule idée. Pardon. C'est d'arriver à la croix. C'est d'arriver à la croix. Or, cette unité, on la retrouve dans la messe. On la retrouve dans l'application à la vie de l'Église, dans l'application à la vie des âmes. De la même idée, du même principe. Il y a une seule rédemption et il y a une seule manière de perpétuer la rédemption, de l'actualiser dans l'histoire. Il n'y en a pas deux. Tout le problème est là. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que veut la fraternité Saint-Pie-X? Mais nous voulons cela. Nous voulons la croix. Nous voulons la croix de notre Seigneur. Nous voulons la célébrer, cette croix. Et nous voulons rentrer dans cette croix. Nous voulons la faire nôtre, cette croix. Il n'y a pas de croix possible. Et il n'y a pas de rédemption au domestique possible. Et quelle est l'alternative à cette unique vie possible, vie chrétienne possible? L'alternative, c'est l'adaptation inutile, frustrante à une nature humaine qui en réalité est toujours la même. Cette idée, je m'explique mieux, cette idée moderne, qu'il faille s'adapter à une nature humaine changeante, qui a besoin de quelque chose d'autre, elle est fausse. Pourquoi? Parce que les blessures du péché sont toujours les mêmes et peuvent être soignées toujours et uniquement de la même manière. Et voyez, c'est mensonge, parce que c'est un mensonge, que l'homme moderne doit être approché et soigné d'une manière différente, produit des fruits de mensonge, produit cette désintégration de la vie de l'Église. Parce que sans cette application de la rédemption, la vie de l'Église perd son principe d'unité. Voilà ce que nous voulons. C'est dans ce sens que la messe est véritablement notre drapeau. Notre drapeau. Notre étendard. Et l'étendard, c'est la dernière chose qu'on lâche. Et il y a une autre chose, une dernière chose que la fraternité doit procurer. Ça, c'est capital. Nous voulons cette messe, non uniquement pour nous-mêmes, nous la voulons pour l'Église universelle. Nous ne voulons pas un autel latéral. Nous ne voulons pas un droit arriver avec notre étendard dans un hémicycle où tout est permis. Non. Non. Nous voulons cette messe pour nous-mêmes et en même temps pour tout le monde. Ce n'est pas un privilège que nous voulons. C'est un droit pour nous et pour toutes les âmes, sans distinction. Ça, c'est capital. C'est par ces biais-là que la fraternité Sampidis continue et va continuer à être une œuvre d'Église, parce qu'elle vise le bien de l'Église. Elle ne vise pas, encore une fois, un privilège particulier. Ça, c'est capital. Dieu choisira le moment, la modalité, la gradualité, les circonstances et tout ce que vous voulez, mais pour autant que cela dépend de nous, nous voulons cette messe maintenant et intégralement et pour tout le monde. Sans rentrer dans une perspective trop humaine qui, comme j'ai souligné, cherche un privilège particulier. Voyez, sans entrer dans une négociation où on commence à traiter, mais on nous donne une église, on nous donne la messe en horaire privilégié, on nous donne les manipules, on nous donne la barrette, on nous donne... Oh, non, il ne faut pas rentrer là-dedans. On nous donne la semaine sainte des Sampidis. Ils ont fait ça. On nous donne la possibilité de célébrer la semaine sainte dans la forme pas ancienne, mais très ancienne. Non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Nous voulons seulement deux choses. La foi et la messe. La doctrine est ce qui alimente dans l'âme la vie spirituelle et la vie morale. La croix, la foi et la messe, voilà ce que nous voulons. Mais nous le voulons maintenant, inconditionnellement et pour tout le monde. Ça, c'est capital. Et si nous, je le répète encore, si nous gardons ces éléments, cette perspective, la Fraternité Sempidis sera toujours et parfaitement une œuvre d'Église qui œuvre au cœur même de l'Église et qui n'a d'autre but que de procurer le salut des âmes dans l'Église et pour l'Église. Merci pour votre attention.
Monsieur Lébé, merci beaucoup pour cette conférence à la fois éclairante, encourageante, stimulante. Nous comprenons mieux que notre position ne s'appuie pas sur un fragile indulte, sur un privilège précaire, mais sur la foi, et donc de ce fait nous rend invincibles. Et donc nous n'avons rien à craindre. Merci Monsieur Lébé pour cette conférence. Je voudrais, au terme de ce congrès, remercier tous les conférenciers qui ont fait l'effort de venir, de travailler pour nous faire mieux comprendre toute la situation actuelle. Et spécialement, un grand merci à M. l'abbé Laurence pour son aide précieuse dans l'organisation de ce congrès. Merci, chers amis, d'être venus très nombreux aujourd'hui pour écouter ces conférences et travailler avec nous. C'est une grande consolation, un grand encouragement de voir que vous êtes nombreux à vous intéresser à toutes ces questions fondamentales. Vous êtes plus nombreux qu'il y a 2 ans. La salle, certes, n'est pas très grande, mais les 2 salles, même les 3 salles sont bien remplies. Donc ça fait très plaisir. Vous savez que les conférences sont incomplètes à l'oral, donc les actes seront bientôt publiés. Vous pourrez vous les procurer. Vous imaginez bien que ce congrès occasionne des frais. Et voilà pourquoi l'entrée était gratuite, mais la sortie est payante. Donc il y aura une quête à la sortie. Je vous remercie par avance. Et nous allons, pour terminer cette journée, chanter à la Sainte Vierge Marie. Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Salve Regina,
Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes pasta aeque, ante clamamus, et solecidi diete, ante suspiramus,
Spiritus Sancti, scenda super vos, mani e semper.
Amen.
Merci.